Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès d'un supermarché en ligne du crime du 4 au 19 mars à Paris, 9 prévenus accusés d'avoir animé ou alimenté une plateforme illégale qui écoulait sur Internet des montres de luxe contrefaites ou encore des faux documents d'identité. Le 7 novembre, Code Source vous a raconté l'histoire de Julien V, le prince de la fausse Rolex, arrêté en Thaïlande. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cas d'Anthony P, alias Volris sur Internet, qui a fabriqué et vendu des milliers de fausses cartes d'identité et de permis de conduire. Cet épisode de Code Source est raconté par Nicolas Jacquard du service police-justice du Parisien. Il a suivi cette affaire depuis le début. Le lundi 4 mars s'ouvre à Paris le procès de 9 personnes soupçonnées d'avoir alimenté une boutique en ligne illégale, boutique de montres de contrefaçon et de faux papiers notamment, baptisée la Genèverie, Genèverie comme Genève et horlogerie. Nicolas Jacquard, est-ce que vous pouvez nous présenter cette boutique en ligne qui a été démantelée ?
Alors la Genèverie, c'est véritablement une forme de supermarché virtuel du crime. On trouvait un petit peu de tout dans ces rayons. Il y avait d'abord des montres contrefaites de très bonne qualité. La Genèverie proposait un accès aux fichiers de police via des policiers corrompus. Et puis enfin, on avait aussi la fourniture de vrais faux papiers, de fausses cartes d'identité notamment.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces 9 prévenus ?
Ils correspondent, on va dire, à la diversité de ce qui pouvait être vendu sur la Genèverie. Vous avez donc, par exemple, des policiers corrompus. Il y en a 2. Vous avez le faussaire principal de montres qui pilotait ce business depuis la Thaïlande, qui se prénomme Julien. Et puis enfin, vous avez Anthony, qui lui était celui qui fournissait les fausses cartes d'identité. Et tout ce petit monde, rappelons-le, ne se connaissait pas physiquement puisqu'il n'interagissait que par le biais d'Internet.
Alors aujourd'hui dans Code Source, vous allez nous raconter l'histoire de Anthony P, 28 ans, celui qui fabriquait les faux papiers. Qu'est-ce qu'on sait d'abord de son milieu d'origine et de son enfance ?
Anthony, c'est vraiment un enfant de la classe moyenne. Il a grandi à la campagne, en banlieue de Belfort, avec des parents qui travaillaient. J'ai pu aller sur place, on voit voilà, un pavillon très classique, donc une enfance, en théorie, en tout cas absolument normale.
Sa grande passion, c'est l'informatique.
Oui, Anthony est véritablement passionné par l'informatique. Il va très vite s'orienter dans cette voie. Il va notamment intégrer un BTS informatique à Belfort. On voit que c'est véritablement sa passion et de cette passion, il va faire son métier.
Comment est-ce qu'il débute dans la vie active ?
Alors, il débute en étant embauché par l'IUT de Belfort, l'Institut universitaire de technologie, et il va développer une application qui servait à piloter un petit peu la gestion des congés des différents agents de cette institution. Et puis, assez rapidement, ses talents sont repérés par un mastodonte, en l'occurrence la société Thales, qui va lui confier de nouvelles responsabilités. Et enfin, à nouveau, un chasseur de tête va une seconde fois le repérer, va le débaucher de Thales. Et là, il va intégrer un grand groupe français également. On a une société qui fait environ 200 personnes et Anthony va être responsable de l'intégralité de la sécurité informatique de cette société.
À partir de l'année 2019, à côté de son travail normal, Anthony P commence à se lancer dans une activité illégale.
Véritablement, c'est pendant le confinement au début de l'année 2020 qu'il va se développer et commencer à produire en masse des fausses cartes d'identité, également de faux permis de conduire.
Anthony habite dans l'Est, dans la région de Belfort. À quoi ressemble sa vie à ce moment-là?
Anthony, donc, en apparence, travaille pour ses sociétés informatiques. Il vit avec sa petite amie qui se prénomme Priscilla. Ils ont plusieurs chats. Voilà, une vie, somme toute, très tranquille.
Au fil des mois, la demande pour ces fausses cartes d'identité et ces faux permis explose.
Et oui, elle explose notamment parce que les fausses cartes, les faux permis produits par Anthony sont de très bonne qualité. Donc, au fil du temps, elle va exploser en quantité, en qualité. Et puis, on voit aussi qu'Anthony va automatiser le processus de production. Il développe notamment un bot, un robot informatique qui permet, voilà, comme vous allez sur n'importe quel site, d'avoir une conversation virtuelle avec son interface informatique.
Concrètement, ça représente beaucoup de faux documents ?
Alors oui, pour la justice, on estime que Anthony a produit entre 3 et 6 000 faux documents de manière de plus en plus rapide et efficace au fil du temps. On sait que sur la fin, il va produire presque jusqu'à 50 fausses cartes d'identité par jour.
Au printemps 2022, au mois de mai, il embauche quelqu'un pour avoir les moyens humains de répondre à cette demande.
Oui, parce que à un moment, entre son activité professionnelle, sa vie personnelle, Anthony se rend compte qu'il a de plus en plus de difficultés à fournir, vu la demande. Et donc, assez logiquement, il va se tourner vers un ami d'enfance qui se prénomme Aurélien. Et Anthony va véritablement former Aurélien à la production de faux papiers. Et ils vont ensuite avancer en binôme.
Concrètement, où est-ce que sont produits ces faux papiers ?
Alors, ces faux papiers, ils sont produits dans ce que les enquêteurs ont appelé des officines. Anthony, très vite, a voulu séparer sa vie normale de sa vie de faussaire. Et donc, il a commencé par louer des appartements en banlieue de Belfort et dans Belfort sous de faux noms, bien sûr, pour ne pas se faire repérer. Et donc, on a eu d'abord une première officine. Ensuite, il a loué également des box, des garages. Et au plus fort de son activité, on estime qu'il y avait 4 appartements qui servaient à produire ces faux documents.
Son commerce illégal marche très bien. Nicolas Jacquard, est-ce qu'on sait ce qu'Anthony P fait avec son argent ?
Assez peu de choses, parce que il est assez peu dépensier. On sait qu'il s'achète un jacuzzi autour de 12 000 euros, un quad également. Son complice Aurélien investit dans un petit modèle de Mercedes. Mais pour le reste, voilà, le duo, les deux amis ne sont absolument pas des flambeurs comme on pourrait l'imaginer.
Quand il embauche Aurélien, il prend des précautions.
D'abord, on le disait, Aurélien est un ami d'enfance de Anthony, mais Anthony quand même est extrêmement méfiant et surtout, par pure mesure de sécurité, ce qu'il va faire, c'est faire comme une forme de période d'essai à Aurélien, et en se disant que si la période d'essai n'est pas concluante, il ne faut pas qu'Aurélien ait eu accès à l'intégralité de son process de fabrication et de son business. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre un bandeau sur les yeux d'Aurélien pour le conduire dans la première officine où Aurélien va découvrir ce nouveau travail.
Malgré ça, quelques jours plus tard, Aurélien se fait braquer.
C'est une pure coïncidence. Aurélien se fait braquer par des malfrats. On pense que ce sont des gens qui, à un moment, ont travaillé avec Anthony, notamment sur la livraison des faux documents, et qui se sont dit qu'il y avait là un bon coup à jouer. Et donc, ces gens se rendent à l'officine. Ils vont agresser Aurélien. Ils vont prendre avec eux l'intégralité du matériel de production et ils vont demander à Anthony de payer une importante rançon pour récupérer ce matériel.
C'est ce qu'il fait ?
C'est ce qu'il fait. On pense qu'à ce moment-là, il va verser plusieurs dizaines de milliers d'euros à ses ravisseurs, entre guillemets. Et puis, à partir de là, Anthony va aussi développer une méfiance, somme toute naturelle et logique au vu de ce qu'il s'est passé. Et donc, il va falloir qu'il multiplie les officines et aussi qu'il change régulièrement ses officines de place pour ne pas être repéré.
2 mois plus tard, en juillet 2022, 4 personnes sont mises en examen dans l'enquête sur le site illégal La Genèverie. Mais Nicolas Jacquard, à ce moment-là, les enquêteurs ont très peu d'éléments sur Anthony, alias Volris. Alors, pour essayer d'en savoir plus, de découvrir des indices, ils décident de lui commander une fausse pièce d'identité.
Il y a eu ce coup de filet sur La Genèverie et c'est véritablement Volris qui est le seul à en réchapper. D'abord parce qu'il est extrêmement fort en informatique et qu'il brouille très régulièrement les pistes. Et donc, pour essayer de le confondre, les enquêteurs vont commander une de ces fausses cartes et ils vont vite se rendre compte de la qualité de cette carte et notamment aussi de la rapidité de fabrication, puisque la carte est commandée. 10 minutes après, ils ont sur leur écran une capture d'écran, justement, de la future carte. Alors, les enquêteurs ont dû rentrer un certain nombre de données pour cette fausse carte, notamment des données biométriques, c'est ce qui rend aussi ces cartes très qualitatives. Et puis, il voit, toujours sur cette interface informatique, que la carte a été produite et expédiée seulement 2h30 après avoir été commandée. On peut dire que là, on a vraiment un niveau de fabrication qui est bien évidemment éminemment plus rapide que les cartes officielles.
Qu'est-ce qu'ils ont comme information pour essayer de le retrouver ?
Alors, ils en savent véritablement très peu. Ils en sont réduits à avoir quelques indices comme ça que Volris a semé en ligne au fil des années comme des petits cailloux. Mais ces petits cailloux ne font pas une piste. On a quelques éléments très parcellaires. On sait que Volris a un ou une proche handicapée. On sait aussi qu'a priori, il aurait un véhicule de marque Mercedes, que ce véhicule présenterait des infiltrations d'eau. Voilà, on en est vraiment réduit à quelques menus détails.
Sur Internet, il se fait appeler Volris. Concrètement, où est-ce qu'il vend ses produits ?
Alors d'abord, il va commencer sur le Darknet, cette partie cachée du web. Et puis, comme d'autres escrocs de ce type-là, progressivement, il a migré vers des plateformes type Telegram, type Snapchat. Et c'est via ces plateformes aussi qu'il va rentrer en contact avec justement les tenants, les propriétaires de la genévrie et qu'ils vont commencer à travailler ensemble.
Et leur commande en ligne de la carte d'identité, est-ce que ça a pu leur donner des informations ?
Oui, et notamment une information qui est cruciale, qui est celle de la localisation, alors de manière très générale, de cet escroc, parce que les enquêteurs se rendent compte qu'en fait, cette carte d'identité, comme toutes les autres, transite par le centre de tri postal de Strasbourg. Ce centre de tri, en fait, il traite l'intégralité du courrier de 3 départements, qui sont le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, mais aussi le territoire de Belfort. Et à partir de là, les enquêteurs vont se recentrer justement sur Belfort et avec l'ensemble de ces indices, ils vont commencer à faire émerger plusieurs noms et notamment 2 noms dont celui d'un certain Kevin P.
L'autre nom est écarté rapidement, mais ce Kevin P pourrait correspondre notamment parce que c'est l'un des noms utilisés par Volris. Ce Kevin P, il a 27 ans, il est informaticien et il habite en Haute-Saône.
Oui, a priori, il coche véritablement toutes les cases d'un profil pouvant correspondre à Volris. Et les enquêteurs vont identifier Kevin P. Ils vont mettre sous surveillance l'intégralité de son environnement, de sa vie quotidienne, pour savoir à qui ils ont affaire et si Kevin P. est bien Volris. Et donc, pendant plusieurs mois, ils le placent sur écoute et n'ignoreront rien de l'intégralité de sa vie quotidienne et de ses échanges, de ses communications.
Le vendredi 27 janvier 2023, les policiers interpellent ce suspect, Kevin P.
Oui, Kevin est placé en garde à vue. Les enquêteurs abattent leur carte, entre guillemets, et vont lui dire, voilà, on est persuadé que vous êtes ce Volris que l'on recherche depuis maintenant plusieurs années. Ils vont lui poser des questions extrêmement précises, en lui demandant, par exemple, est-ce qu'il va sur le Darknet ? Est-ce que dans son entourage, il a un ou une proche handicapée ? Voilà, ils vont essayer véritablement de voir si Kevin P. correspond bien au profil de Volris.
Qu'est-ce qu'il répond ?
Alors, Kevin est bien évidemment sous le choc de cette interpellation. Il va répondre positivement à une ou deux questions, notamment par exemple le fait que, oui, il a bien un diplôme d'informatique, oui, il travaille bien dans l'informatique, mais pour le reste, c'est un petit peu ambigu. Il explique que son papa est malentendant, mais est-ce que, effectivement, c'est ce qui fait le handicap que les policiers recherchaient ? Et puis, pour tout le reste, il répond par la négative, parce que non, il ne va pas sur le Darknet, non, il n'utilise pas de logiciel de cryptologie qui permettent de masquer les communications. Donc, à l'issue de cette garde à vue, les enquêteurs sont forcés de se rendre compte que Kevin P. Vraisemblablement n'est pas Volris.
Mais les enquêteurs essaient malgré tout de comprendre s'il n'y a pas un lien direct ou indirect avec le mystérieux Volris.
Oui, et c'est véritablement au détour d'une seule question que, d'un coup d'un seul, l'intérêt des enquêteurs va s'éveiller à nouveau. Ils vont demander, en fin d'audition, à Kevin si, dans son entourage, il ne connaîtrait pas quelqu'un qui a un excellent niveau d'informatique, un niveau supérieur à celui de Kevin. Et à partir de là, Kevin se dit que oui, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait correspondre à cette définition et qu'il se rappelle que quand il était justement en train de faire ses études de DUT informatique à Belfort, il y avait cet Anthony P qui était quand même extrêmement doué, d'ailleurs avec lequel ils étaient d'abord amis, puis ensuite ils se sont brouillés. Et Kevin dit voilà, peut-être que celui que vous cherchez pourrait être cet Anthony P.
Et là, Nicolas Jacquard, tout concorde.
Là, effectivement, les enquêteurs vont se mettre sur la piste de Anthony. Ils vont à nouveau lancer une surveillance complète de cette personne. Et contrairement à ce qu'il s'était passé avec Kevin, là, cette fois, vraiment, tous les feux sont au vert et toutes les cases sont cochées. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que Anthony, alors voilà, un très bon niveau d'informatique, on le disait, il travaille pour des poids lourds du secteur. Il a effectivement une petite amie qui a un handicap, une maladie psychologique, psychiatrique qui l'empêche de pouvoir vivre normalement au quotidien. Elle est placée sous curatelle. Ils se rendent compte aussi qu'il y a cette fameuse Mercedes que Anthony P. Volris évoquait dans certains échanges dont les enquêteurs avaient pu avoir connaissance sur Internet. Donc là, cette fois, ils se disent qu'ils tiennent la bonne personne.
Le lundi 3 avril 2023, les forces de l'ordre lancent un coup de filet. Que donne d'abord la perquisition au logement d'Aurélien, le complice d'Anthony ?
Alors, ce logement qui se trouve à Val-d'Oie, en banlieue de Belfort, c'est véritablement la plus grosse officine qui est opérée par le duo. Et donc, quand ils vont rentrer dans cette vieille bâtisse qui se trouve au bord d'un rond-point, ils vont découvrir vraiment tout l'attirail du parfait faussaire. On a un appartement dans lequel il n'y a qu'un matelas posé au sol, pas de télévision, pas de canapé. Toute la place est véritablement réservée à la production de faux papiers. On a 5 imprimantes qui sont posées sur des tréteaux. Tout le matériel du parfait faussaire dans son intégralité.
Les enquêteurs frappent aussi à la porte d'Anthony.
Oui, et là, on est quelques kilomètres plus loin, dans un autre village qui est cette fois vraiment non plus en proche banlieue de Belfort, mais à la campagne, qui s'appelle Vautiermont, un petit village de 300 habitants, extrêmement calme, avec ses 3 petites maisons neuves, dont l'une est louée justement par Volris, Anthony, et sa petite amie, à côté d'un étang. Et c'est là que, depuis 6 mois, le couple vivait, là qu'était l'antre de Volris.
Comment réagit Anthony quand il est arrêté ?
Presque comme s'il s'y attendait. Il dira plus tard en audition qu'il avait voulu arrêter cette activité de faussaire et que, en quelque sorte, le fait d'être interpellé pouvait jouer pour lui comme un soulagement. C'est un argument qu'on retrouve souvent chez les malfrats, mais là, ce qui laisse penser que Anthony dit vrai, c'est que très vite, il va jouer carte sur table avec les enquêteurs. Il va reconnaître tout de suite qu'il est Volris et surtout, il va donner accès aux enquêteurs à l'intégralité de son matériel informatique. Et ces mêmes enquêteurs, qui pourtant sont spécialisés en cybercriminalité, reconnaîtront que sans l'aide de Volris, sans les codes qui leur ont été fournis, l'enquête aurait été beaucoup plus longue.
On voit qu'Anthony collabore avec la police judiciaire, mais Nicolas Jacquard, avec son officine de faux papiers, le jeune homme a aidé de nombreux gros voyous. Expliquez-nous ça.
En expertisant l'un des fichiers clients de Volris, les enquêteurs vont analyser que au moins 1 millier d'entre eux étaient connus du fichier du traitement des antécédents judiciaires, c'est-à-dire qu'ils avaient un casier judiciaire et en tout état de cause, à minima, ils avaient été entendus dans certaines procédures. Et donc parmi ceux-là, on sait aussi qu'il y en a une petite trentaine qui sont inscrits au fichier des personnes recherchées et 5 de ceux-là, d'ailleurs, sont recherchés pour évasion.
Il avait conscience de ça ?
Alors, lui dit en audition qu'il n'en avait pas complètement conscience, que justement, c'est de lui présenter ses différents profils qui lui fait prendre conscience de ce qu'il a pu commettre. Il dit le regretter et puis, pour sa défense, il explique qu'il voulait absolument éviter d'avoir de potentiels terroristes dans ses clients et donc qu'il se méfiait que dès que le profil lui semblait un petit peu suspect, eh bien, il ne donnait pas suite.
Anthony va passer 4 mois en détention provisoire à Meaux, en Seine-et-Marne. Sa copine se sépare de lui. Nicolas Jacquard, on en revient au procès de la boutique en ligne illégale La Genèverie au tribunal judiciaire de Paris. Ce procès doit se terminer le 19 mars. En ce qui concerne Anthony, son commerce de faux papiers aurait rapporté 400 000 euros. Est-ce que cet argent a été saisi ou bien est-ce qu'il a réussi à cacher son butin ?
Alors, a priori, il a été en grande partie saisi, et justement parce que Anthony Volris a collaboré avec les enquêteurs, parce que il a lui-même expliqué quel était son dispositif de blanchiment. Il faut savoir que, comme beaucoup de voyous aujourd'hui, comme beaucoup d'escrocs, ses gains étaient convertis en crypto-monnaie. Et pour avoir vu ce schéma de blanchiment, voilà, on est quelque chose d'une extrême complexité, et c'est justement de l'avoir dévoilé aux enquêteurs qui leur ont permis de pouvoir mettre la main sur les avoirs de Volris.
Merci à Nicolas Jacquard. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Chaque mercredi, il y a aussi maintenant Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024. Les témoignages de 24 médaillés d'or olympiques au micro d'Anne-Laure Bonnet. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delceni, chef du service Police-Justice du Parisien.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.